Centre chrétien évangélique d'Andrézieux a le plaisir de vous faire écouter des conférences publiques de différents pasteurs.
Ces messages ont été en bénédiction pour un grand nombre d'auditeurs et nous espérons qu'il en soit de même pour vous.
Vous pouvez venir écouter ces prédications en direct tous les dimanches à 10h et 16h30, ainsi que les mardis à 20h à l'adresse suivante.
Centre chrétien évangélique d'Andrézieux, 4 bis boulevard Jean Jaurès, 42160, Andrézieux-Boutéon.
Si vous désirez écouter d'autres conférences, vous pouvez les commander soit au comptoir de notre librairie, soit par téléphone au 04 77 36 67 45, en laissant sur notre messagerie vocale vos coordonnées et les numéros des conférences désirées.
Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente écoute.
Je vais demander à au mardi, nous avons suivi une étude pour ceux qui viennent le mardi soir sur cette histoire que nous trouvons dans le deuxième livre des rois au chapitre 4 de ce prophète Élisée et de ce couple qui a reçu Élisée et qui pour le recevoir a mis en place un certain nombre de choses et d'événements pour justement que cet homme, ce prophète de Dieu, ce serviteur de Dieu, soit bien reçu. Nous avons ce texte ici dans 2e livre des rois, au chapitre 4, et nous allons lire jusqu'au verset 10. Un jour, Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Faisons alors une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Alléluia. Donc nous avons déjà lu ce texte plusieurs fois, et même 5 ou 6 fois, pour ceux qui n'ont pas bien compris, on va le répéter encore quelques fois. Mais tout simplement parce que nous nous sommes arrêtés sur chaque élément que ce couple a voulu mettre dans cette chambre. Et nous voyons que pour nous, il y a là un parallèle spirituel et une démarche spirituelle très importante. Nous nous sommes arrêtés simplement sur le fait qu'il y avait une chambre. Et la chambre haute représentait tout simplement, nous avons fait le parallèle avec la Pentecôte, la vie de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, cette relation avec Dieu que chacun d'entre nous, nous devrions avoir. Bon, que vous avez. Cette relation bénie, vraiment bénie de Dieu, qui nous amène dans cette communion avec lui, dans cette intimité où Dieu va non simplement, être là pour nous écouter et entendre toutes nos doléances, toutes nos difficultés, nos requêtes, nos prières, mais en plus il va nous parler. Il va s'adresser à nous. C'est cette relation avec Dieu. Nous avions vu que cette chambre n'avait pas été faite simplement avec des draps tirés rapidement faits. Non, mais ils ont engagé une construction. Ils ont même bâti des murs pour cela. Et nous avions fait cette relation en disant que les murs, c'était aussi la sanctification qui pouvait protéger le chrétien. La sanctification, c'est ce temps mis à part pour Dieu, afin que Dieu parle à nos cœurs, travaille nos cœurs, forme nos vies, forme nos cœurs, et nous amène finalement à nous protéger de l'ennemi de notre âme qui cherche à nous atteindre. Et quand de cette manière-là Dieu nous parle, il montre aussi dans notre vie ce qui n'est pas tout à fait exact, ce qui n'est pas vraiment vrai, ce qui lui considère aussi, et que nous devrions considérer parfois comme un péché, des choses que nous devrions pas vivre, pas faire, pas dire, pas agir dans notre état d'esprit ou dans notre cœur. Parce que la Bible nous dit que à travers ces choses, nous donnons un accès à Dieu. Donc ça veut dire que, nous donnons un accès au diable plutôt. Et à partir de là, ça veut dire que les murs sont fissurés. Ça veut dire qu'à partir de là, il y a une possibilité pour l'ennemi d'entrer dans notre vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à causer des dommages. Alors c'est pour ça que nous avions pris cette image de cette chambre avec ses murs, parce que là, des murs étaient véritablement bâtis. Et une maison avec des murs, ça garde des intempéries. Quand il pleut ici, généralement, vous n'êtes pas mouillé là. En ce moment, il pleut dehors, il y a du vent, mais généralement, vous allez certainement pas, en tout cas je l'espère, si le toit tient bien aussi, normalement vous ne devriez pas être mouillé. Je dis généralement, je fais attention, parce qu'un jour il y a quelqu'un qui était en train de prêcher comme cela, et il parlait de l'onction de Dieu qui allait tomber sur l'église, et la pluie du Seigneur qui allait commencer à les arroser, et il parlait de l'action du Saint-Esprit, et à ce moment-là, alors qu'il y avait un orage terrible dehors, le toit s'est ouvert, et d'un seul coup il y a une grosse rasade, une vague d'eau qui est venue passer sur l'église, et tous ont été inondés. Ce n'est pas tout à fait de ça qu'il parlait au départ. Mais bon, ça, je suis prudent maintenant un petit peu. Mais en tout cas, cette sanctification, nous en avons besoin. Cette relation avec Dieu, nous en avons besoin également. Et puis, nous avons vu que dans cette chambre, il y avait un lit. Vous direz, une chambre sans lit, ça ne va pas servir à grand-chose. C'est vrai. Encore faut-il l'utiliser. Et nous avions vu qu'il y avait besoin d'équilibre en toutes choses, dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie de couple. On a parlé aussi des relations sexuelles, de la vie conjugale et de tout ce que la Bible parle dans ce domaine-là. Et puis également de la consécration, un équilibre aussi dans la consécration, c'est-à-dire un équilibre aussi dans notre relation avec Dieu. Et nous avions vu également un certain nombre de choses. Et si certains sont intéressés, je fais un petit peu de pub, il y a des cassettes, vous pouvez les commander à la bibliothèque. Voilà. Et puis également, nous avons vu que dans cette chambre, il y avait une table. Alors nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur cette table et sur le siège qui était là. Et cette table exprimait le fait que Élisée pouvait être un travailleur. Et également, il y avait une image à travers de cette table qui était cette table que nous avons prise ce matin, la table de la Sainte-Seine. Et nous avions vu les quatre images de cette identification qu'il y a à travers le pain, le vin et de ce que Dieu nous a donné à travers Jésus-Christ. Et puis il y avait un siège également. Bien sûr, vous allez me dire, pour s'asseoir à la table, c'était nécessaire. Mais ce siège nous a parlé de notre position devant Dieu. Du fait que nous pouvons être assis, debout, à genoux, à plat ventre, prosternés, debout, les bras en l'air, etc. Peu importe, on avait parlé tout simplement que l'important, c'était que lorsque nous étions debout, que notre cœur puisse être debout aussi. Et si nous sommes à genoux, que notre cœur soit à genoux également. Et si nous nous prosternons devant Dieu, que notre cœur le soit également, véritablement prosterné aussi devant Dieu, etc., etc. Et ça, c'était aussi important. Et puis, nous avions terminé mardi dernier en proclamant que la Bible nous disait aussi qu'aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ et par le fait de l'avoir accepté dans notre vie, nous étions aujourd'hui assis avec Christ dans les lieux célestes. Et nous avions tout simplement proclamé ces paroles en disant que si l'ennemi veut nous rappeler que nous sommes des perdants, si l'ennemi veut nous rappeler que nous sommes des gens qui ne valons absolument rien, si l'ennemi veut nous rappeler que de toute façon, peu importe ce que nous pouvons entendre, nous n'aurons pas la foi pour recevoir la victoire, nous n'aurons pas cette persuasion, ce discernement et également cette persévérance pour aller jusqu'au moment où Dieu va nous bénir, nous avons simplement dit qu'il nous fallait proclamer que ces paroles étaient des paroles de mensonge, parce que nous devons rappeler à l'ennemi que dès le moment où nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur et dans notre vie, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia! Là où lui-même il a pris la victoire sur les autorités, les dominations de ce monde. Et je crois que c'est un point qui est aussi important à ce que nous pouvons vivre. Ce matin, pendant quelques minutes, nous allons nous arrêter sur le fait que dans cette chambre, il y avait aussi un chandelier. Plus exactement, un luminaire, un porte-lampe. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que à cette époque-là, les chandelles n'existaient pas. Donc, il ne pouvait pas y avoir de chandelier. Par contre, il y avait des luminaires, il y avait des lampes, ou des porte-lampes, peu importe comment nous pouvons l'appeler. Nous, ce qui nous importe ce matin, c'est de savoir que la lumière existait. Et qu'il y avait une véritable lumière. Ça nous parle de la lumière. La lumière que Dieu nous donne avec Christ. Et deuxièmement, que nous sommes lumière nous-mêmes. Et nous allons essayer de voir ça ce matin. La Bible nous parle de cette lumière et nous voyons que dans tout ce que Dieu a mis en place à travers par exemple le peuple d'Israël, que ce soit dans l'Ancien Testament, la lumière était toujours présente. Rien avec Dieu ne se fait dans les ténèbres. Rien avec Dieu ne se fait dans le secret, dans le caché, dans les choses qui sont sous couvert. Mais tout se fait dans la lumière. Parce que Dieu aime la lumière, mais il n'aime pas n'importe quelle lumière. Il aime la lumière que lui fait briller. Il aime la lumière qu'il a décidé de mettre. Si nous revenons un petit peu en arrière et que nous regardons ce qui se passait lorsque le peuple d'Israël était là dans le désert et que Dieu, eh bien, avait fait demander cette tente, ce tabernacle, afin que sa présence y soit là toujours, nous voyons que dans tout ce qui était mis en place, rien là non plus n'était dans les ténèbres, puisque dans ce tabernacle où il y avait ce lieu saint et ce lieu très saint, là où il y avait la présence de Dieu, il y avait aussi une lumière. Il avait organisé ces choses de manière particulière. Il avait indiqué là où devait brûler la lumière et comment elle devait brûler cette lumière et quand elle devait brûler. Et il a précisé les choses d'une manière très claire. À l'époque, bien sûr, ce n'est plus notre époque maintenant, mais il y avait un temple pour que les hommes puissent aller rencontrer la présence de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a fait des temples, nous, dans lesquels il réside. C'est la grande différence qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Si, à l'époque, EDF avait vu de quelle manière le tabernacle avait été éclairé, certainement qu'ils n'auraient pas été d'accord avec Dieu lui-même. Parce que eux, ils auraient dit, non, là, il faudrait mettre une lumière de telle et telle manière, là, il faudrait éclairer de telle façon, et là, il faudrait faire ceci de telle manière et de telle manière. Mais Dieu avait donné des ordres précis, des instructions précises. Et il a indiqué quelle source de lumière il devait y avoir dans ce tabernacle, et pas une autre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, et déjà Dieu à l'époque savait qu'il allait envoyer celui qui sera la lumière du monde. Et Dieu savait, c'était une prophétie même déjà qui était écrite d'une certaine manière, une image était là donnée, il savait que pour ce monde, il ne pourrait pas y avoir plusieurs types de lumières différentes, une seule pourrait véritablement éclairer ce monde, Christ étant la lumière du monde. Nous avons dans Jean chapitre 8 et au verset 12 ce verset qui dit, et c'est Jésus qui parle, il dit « Je suis la lumière du monde ». Et il dit ceci, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». Le monde veut nous faire croire que différentes lumières peuvent éclairer notre vie et nous guider aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on parle de la religion, on pourrait prendre en compte aujourd'hui tout un tas de philosophies, de traditions, d'idéologies, de différents mouvements, etc. Et ils ont tous leurs petits trucs, ils ont tous leurs lumières, ils ont tous leurs projecteurs, leurs spots, ils ont tous cette façon de dire « mais nous on va vous éclairer de telle ou de telle manière ». Mais depuis l'origine, Dieu a dit « le seul qui vous sortira des ténèbres et qui vous amènera en pleine lumière, c'est celui que j'ai prévu d'avance, Christ. Et il n'y en aura pas d'autre ». Élisée n'était pas seul. Dans cette chambre, il y avait cette lampe, il y avait ce luminaire. Il était dans la lumière. Et nous voyons qu'il était dans la lumière puisqu'il était dans cette relation avec Dieu. Et Dieu l'éclairait. Dans les différentes difficultés par lesquelles il a pu passer, Dieu l'a éclairé. Et tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons des hommes et des femmes de Dieu qui à un moment donné ont été éclairés par Dieu. David avait aussi fait cette expérience particulière dans le psaume 27, il va dire « L'Éternel est ma lumière et mon salut, alors de qui aurais-je crainte ?» Et peut-être que dans ton cœur ce matin tu as des craintes. Tu devrais proclamer que Dieu est ta lumière ce matin. Alors pourquoi tu as des craintes ? Quand les tribulations, quand les difficultés surviennent, est-ce que Dieu ne te voit pas au milieu de cette tempête ? Dieu te voit. Ne te laisse pas gagner par la crainte. Il est ta lumière. Il est ton salut. Il est ton sauveur. Dans le psaume 119, vous connaissez ce verset qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. Et elle est une lumière sur mon sentier. » Et là, nous avons des éléments qui nous permettent aujourd'hui de comprendre, oui, la confirmation de la parole de Dieu. Qui a été faite chair ? C'est la parole. Quand vous lisez le premier chapitre de l'évangile de Jean, il nous est expliqué que la parole a été faite chair. C'est-à-dire celui qui proclamait cette parole est devenue chair dans ce monde. Christ est devenu chair dans ce monde. C'est lui qui a été incarné et il est venu ici. Quand je dis incarné, je ne parle pas de réincarnation. Parce que la réincarnation n'existe pas. Seul Christ a été une fois pour toutes incarné. Pourquoi la réincarnation n'existe pas ? Tout simplement parce que la Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Donc on ne peut pas ensuite revenir, que ce soit en animal ou que ce soit en autre homme ou notre femme, etc. Il y a une seule vie. Et c'est pour ça qu'il faut la gagner, cette vie-là. Et il ne faut pas la perdre. Et il faut bien la vivre. Et il faut recevoir tout ce que Dieu a mis à notre disposition afin que nous ne nous trompions pas, mais que nous puissions vraiment vivre la vie que Dieu a prévu de nous donner. Et pour cela, il faut la comprendre. Il faut ouvrir nos yeux, nos oreilles, comprendre ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Et sa parole, cette Bible, cette parole vivante que chacun d'entre nous, nous devrions vivre, partager, semer aussi, eh bien, cette parole, elle est vivante. Et elle va éclairer nos vies, elle va éclairer nos cœurs, elle va éclairer les situations par lesquelles nous passons les uns et les autres. Elle est une lumière sur notre sentier. Peut-être quelqu'un est en train de dire ce matin, mais moi, je suis véritablement dans les ténèbres parfois. Je ne sais pas quelle décision il faut prendre, je ne sais pas quel engagement il faut avoir, je ne sais pas quelle marche je devrais avoir. Et j'ai l'impression parfois dans ma vie que cette vie est assez ténébreuse. Tu peux sortir aujourd'hui des ténèbres. Tu peux sortir de l'ombre, tu peux sortir de la nuit et venir en pleine lumière. La Bible nous dit que Christ a donné sa vie afin que nous qui étions dans les ténèbres, nous puissions aujourd'hui venir en pleine lumière et vivre pleinement cette vie abondante. Nous qui étions dans les péchés, dans la désobéissance, nous qui étions loin de Dieu, eh bien Dieu a donné Christ pour qu'il meure pour chacun d'entre nous, qu'il nous donne sa vie et que par son sang, nous puissions être lavés, purifiés. Alléluia. Et c'est pour ça que nous avons, nous aussi, besoin de faire cette expérience. Nous aussi, nous avons besoin de comprendre et de vivre pleinement que Christ est notre lumière. Et pour cela, si vous n'avez pas encore vraiment réalisé ou vécu, il n'y a qu'une chose à faire. Demandez à Dieu qu'il envoie sa lumière sur votre vie. Et il va éclairer vos yeux, il va éclairer vos cœurs. Il y a des gens qui ne comprennent pas lorsqu'ils lisent la Bible. Il y a des gens pour qui c'est trop compliqué de lire la parole de Dieu. Ils se disent, mais c'est difficile, c'est complexe. Oh, il faut certainement interpréter cette parole de différentes manières pour arriver à comprendre. Pas du tout. T'as rien à interpréter quand tu lis la Bible. La seule chose que tu as à demander, c'est, Seigneur, s'il te plaît, éclaire mes yeux. Ouvre mes yeux, envoie-moi cette clarté. David dira dans le psaume 43, envoie la lumière, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à dans ta présence, dans tes demeures. Et nous avons besoin de vivre cela. Ça devrait arriver. Je n'ai pas mis le verset. C'est le psaume 43, le verset 3. Je vais le relire. Envoie ta lumière. Envoie ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Quand nous demandons à la lumière de venir dans notre vie, quand nous demandons donc par conséquent à Christ de venir dans notre vie, lui nous conduit à Dieu. Et il n'y a personne d'autre qui nous conduit à Dieu le Père. Seul Jésus-Christ nous conduit au Père. On n'a pas besoin de Marie, des saints, avec tout le respect qu'on peut avoir pour ces hommes qui ont vécu, qui ont fait des grandes choses, etc. Mais la Bible nous dit que de toute façon, maintenant, ils sont morts. Étant morts, ils n'ont plus aucune action, aucun pouvoir, ils ne nous voient même plus sur cette terre. Et heureusement pour eux. J'ai du mal à comprendre comment certains pensent qu'ils peuvent prier encore aujourd'hui les saints, qu'ils peuvent prier encore aujourd'hui Marie, alors que Dieu nous dit que lorsque nous sommes dans sa présence, nous sommes dans la paix, le repos, la joie et la félicité pour l'éternité. Imaginez que vous mouriez maintenant. C'est une supposition, hein, comme ça. Si vous savez où vous allez, c'est bien. Si vous ne savez pas, réfléchissez-y maintenant. Imaginez que vous mouriez maintenant et que vous partez, admettons, avec Dieu. Ça serait bien, ça. C'est une bonne décision, une bonne voie. Vous vous trouvez dans le paradis pour l'éternité. Et là, vous êtes dans la paix, le repos et la joie de Dieu. La Bible nous dit, plus de souffrance, plus de malheur, plus de perturbation, plus de crainte, plus de peur, plus d'angoisse, plus... Tout ça, ça a disparu. Vous imaginez que vous pourriez être dans ce repos, cette paix, cette tranquillité, si vous puissiez voir encore sur la terre toute la misère du monde qui existe? Mais c'est pas possible. Il y a une incohérence. Il n'est pas possible d'être dans cette présence de Dieu et d'être en paix. Moi, je suis désolé, quand je vois, que ce soit la télévision, ou que ce soit, j'entends à la radio, ou que je vois des gens qui sont dans la souffrance, mais je ne peux pas me réjouir et être dans la paix et la joie. C'est impossible. Et quand nous serons dans la présence de Dieu, nous ne serons pas démunis de sentiments ou d'émotions. Notre âme, avec le siège de nos sentiments, eh bien, sera toujours présent. Nous comprendrons, nous serons toujours intelligents, on ne va pas être transformés en robots. Et si nous puissions voir que sur cette terre il y a encore de la misère, on ne pourrait pas être dans le repos et cette vie pour l'éternité, dans la paix, la joie, etc. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, quand dans une des paraboles, Jésus parle là à des hommes, il va dire, mais quand on est mort, eh bien, vous n'avez plus la possibilité de revenir sur cette terre, vous n'avez pas la possibilité de voir ce qui se passe. Donc, par conséquent, inutile de prier les morts, même s'ils ont été saints, parce qu'en Christ, un temps, la Bible nous dit tout simplement que ces hommes-là ou ces femmes-là sont partis, ils sont morts. Et dans le Deutéronome, comme dans le livre des Lévitiques, il nous est dit que de prier les morts, puisque par conséquent ces gens sont morts, eh bien c'est une abomination aux yeux de Dieu, et que Dieu nous interdit de prier les morts, quels qu'ils soient, aussi grands qu'ils aient pu être, quels qu'ils soient, Dieu nous interdit de le faire. Dieu ne dit pas qu'on ne peut pas le faire, mais il nous interdit à nous qui sommes en Christ et qui voulons nous approcher de la lumière de le faire. Ça veut dire que d'autres peuvent le faire, c'est vrai. Ça veut dire que ça existe, que certains font ces choses-là. Et Dieu appelle ça prier les morts, du spiritisme, et ce sont des choses qui sont très graves et qui ont de graves conséquences sur notre vie, sur le plan spirituel. Et Dieu nous dit, vous, je ne vous le permets pas. C'est ce qu'il dira au peuple d'Israël quand il va leur dire, vous allez entrer dans ce pays promis, et il va dire, oui, ces nations le font, mais à vous, je vous l'interdis, parce que ces choses me sont en abomination. C'est une porte ouverte au démon, c'est une porte ouverte à l'action du diable, c'est une porte ouverte au lien, c'est une porte ouverte au tourment, c'est une porte ouverte à la possession. On est en contact direct avec les démons dans ces domaines-là. Et Dieu nous dit, à vous, je vous l'interdit. Mais je vous envoie ma lumière. Je vous envoie cette lumière pour que vous soyez éclairés et que vous puissiez comprendre. S'il y a des choses dans la Bible que vous ne comprenez pas quand vous commencez à la lire, dites, Seigneur, éclaire mon cœur, éclaire mes yeux, éclaire mon entendement, que je comprenne, que je sache ce que tu veux faire et accomplir. Et quand nous la recevons, cette lumière, ben c'est vrai, nous voyons plus clair. Et le psalmiste dira encore, auprès de toi, c'est la source de la vie. Par ta lumière, maintenant, nous pouvons voir la lumière. Il y a des choses que nous avons du mal à vivre, à voir, à comprendre, à considérer. Mais Dieu a tout fait pour nous donner la lumière. Quand nous réclamons cette lumière qu'elle vienne éclairer nos cœurs, alors nous commençons à considérer Christ. Nous commençons à considérer son sacrifice. Nous commençons à comprendre pourquoi il est venu sur cette terre, pourquoi il est mort, pourquoi il a donné sa vie, et quelles sont les conséquences aujourd'hui de ce sacrifice. De quelle manière ? Parce qu'il est mort et qu'il a donné sa vie. Aujourd'hui, nous, nous pouvons vivre et avoir cette vie pour l'éternité. Et nous avons besoin de chercher cette lumière. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, lorsque vous recevrez cette lumière, vous deviendrez vous-même la lumière du monde. Oh, les chandeliers là. Les luminaires, les lampes. Nous sommes la lumière du monde. Jésus le dira, Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Quelle responsabilité, hein? Parfois on dit de certains qu'ils ne sont pas une lumière. Dans certains domaines, ça peut être vrai. En tout cas, sur le plan spirituel, malheureusement, je crois que ça peut être vrai aussi. Et malheureusement, parce qu'un jour on a découvert Christ, on a découvert ses réalités, parce qu'on s'est engagé par la foi à marcher avec lui, ce qui n'est pas tant important, c'est de découvrir ce qu'il a pu nous apporter et d'avoir commencé un engagement avec lui. Ce qui est important, c'est de finir notre engagement avec lui. Dans le Nouveau Testament, quand il est parlé des hommes de Dieu, des pasteurs, des leaders, etc., il n'est pas dit, regardez comment ces hommes ont commencé. Il est dit, regardez et considérez comment ces hommes ont fini leur vie et imitez-les ainsi que leur foi. Et la Bible nous dit que ce qui est important, ce n'est pas le commencement d'une chose, mais c'est sa fin. Et dans notre vie avec Dieu, nous avons commencé, et vous avez commencé, un démarrage a commencé dans votre vie, mais ce qui est important, c'est de persévérer pour aller jusqu'au bout. Ce qui est important, c'est de finir avec Dieu. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, si on commence avec le Seigneur, on ne peut pas s'arrêter. Et malheureusement, si. On peut s'arrêter.
bonté, la grâce, la fidélité, la miséricorde, tout ce que Dieu met à notre disposition. Malheureusement, à un moment donné, on peut, c'est vrai, lâcher prise. Parce que l'ennemi, justement, de notre âme, ne veut pas que nous terminions bien. Il aimerait que nous puissions lâcher avant. Et c'est pour ça que nous avons besoin de persévérance. C'est pour ça que nous avons besoin de volonté et que tout ne vient pas tout seul, il ne tombe pas du ciel d'une manière toute simple comme ça, toute seule. Non, il y a besoin de volonté, il y a besoin de détermination, il y a besoin de courage, il y a besoin de dire à un moment donné, ça je veux l'arracher, je veux le prendre, je veux l'enlever de l'ennemi qui me le tient et je veux l'acquérir pour moi. Les grâces, les bénédictions, les miracles, les signes, les prodiges que Dieu veut accomplir dans notre vie. La Bible nous dit, vous étiez autrefois dans les ténèbres, mais maintenant vous êtes dans la lumière, et vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il est dit? Marchez comme des enfants, marchez comme des enfants. Elle est un peu tamisée celle-là. Hein? Pourquoi Dieu nous demande de marcher comme des enfants de lumière? Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et quand nous découvrons la lumière du monde, Christ, que nous acceptons Christ dans notre vie, nous devenons alors nous-mêmes lumière. Par conséquent, il y a des fruits ensuite à cette lumière. Nous allons changer. Nous allons être transformés, modifiés, et nous allons porter du fruit. La bonté, la justice et la vérité. Et vous savez, souvent, dans le milieu chrétien, on dit « Oh, faut surtout pas juger les autres. » Il y a des jugements à ne pas porter. Par contre, il y en a d'autres à porter. Selon, justement, la bonté, la justice et la vérité. Et trop souvent, on ne comprend pas ce que Dieu nous dit, et on veut se cacher derrière une certaine forme de piété, une certaine forme de spiritualité, en disant, oh là là, moi je me dégage de tout ça, je ne veux pas juger. Il y a des choses, c'est vrai, nous n'avons pas à les juger. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Il y a des choses qui ne nous correspondent pas. Il y a des choses dans lesquelles nous ne devrions pas nous occuper. D'ailleurs, nous avions vu un verset mardi soir qui nous disait tout simplement, occupez-vous de vos affaires. Et c'est vrai que, si la Bible nous demande de nous occuper de nos affaires, eh bien comme ça, nous n'aurons certainement bien moins de problèmes. Par contre, dans le domaine spirituel, concernant des règles précises de base de foi spirituelle que Dieu nous donne, parfois il peut y avoir des choses à juger. Il est dit ici au verset 10, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Et au verset 11, toujours de ce même passage, il est dit, « Et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt... condamnez-les. » Tu es amené à juger dans ta vie s'il y a une œuvre de ténèbres. Et tu ne dois pas simplement te cacher derrière tout ça en disant « Non, non, moi je juge rien, je ne fais rien. » Si c'est le péché qui a commencé à consumer ta vie, alors tu dois te juger toi-même. Et si tu ne te juges pas toi-même, eh bien, il y arrivera un temps où de toute manière, Dieu le fera. Et ça, après, c'est ton problème avec lui. Ce que Dieu nous demande, parce qu'il n'est pas là pour nous écraser, nous condamner injustement parce qu'il nous aime. Il veut que nous puissions nous examiner nous-mêmes et que nous puissions examiner ce qui est agréable au Seigneur afin que nous ne prenions pas part aux œuvres des ténèbres parce que celles-ci elles ne portent pas de fruits. Au contraire, elles vont chercher toujours à te détruire, à t'amoindrir et à t'écraser. Alors tu dois les juger, ces œuvres-là. Les délaisser, les abandonner, les mettre derrière toi, les oublier et repartir plus loin, parce que tu dois les condamner, et repartir plus loin. Apporter le fruit de la lumière, bonté, justice et vérité. Je crois que si déjà ces choses étaient prédominantes et dominantes abondamment dans nos vies, nous aurions bien moins de problèmes. Si la bonté, la justice et la vérité abondaient dans une famille, dans un couple, on aurait bien moins de problèmes. Quand la bonté, la justice et la vérité abondent dans nos relations fraternelles avec les autres, on a bien moins de problèmes. Parce que les choses sont claires, elles sont nettes, elles sont pures, selon Dieu,
Et alors nous sommes tout simplement enrichis de cette situation. Nous sommes appelés la lumière du monde, et c'est une grande responsabilité, nous le voyons ici. Mais également, la lumière, c'est un gage de notre communion avec Jésus-Christ. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 7, il nous est dit « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec Christ, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Nous sommes en communion avec Christ, mais nous sommes en communion les uns avec les autres également. Nous sommes dans cette relation fraternelle. C'est un gage de communion avec Christ, c'est un gage de communion fraternelle les uns avec les autres. Je parlais tout à l'heure de cette lumière tamisée. Mais c'est vrai que la lumière de Christ, ce n'est pas une lumière tamisée. Ce n'est pas une lumière non plus d'apparence. Ce n'est pas simplement une lumière superficielle. C'est une lumière qui est véritable. Dans 1 Jean, toujours, chapitre 2, verset 9, il est dit « Celui qui prétend être dans la lumière, mais qui est son frère, est encore dans les ténèbres. » Ça nous permet de voir ici que nous pouvons prétendre être dans la lumière, donc. Donc nous pouvons toujours avoir des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent qu'elles sont dans la lumière. Mais tant que leur cœur, leur vie n'est pas dévoilée devant le Seigneur, en fait, elles demeurent toujours dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. C'est une situation que Dieu nous donne aussi de pouvoir vivre et de comprendre. Si tu dis que tu es en Christ, si tu dis que tu es la lumière du monde, si tu te prétends être cette lumière qui va éclairer les autres, mais que toi, tu as dans ton cœur un ressentiment pour l'un, un ressentiment pour l'autre, que tu commences à juger injustement, de juger ou de t'occuper ici ou là, si tu commences à voir dans ton cœur des attitudes finalement qui vont être en opposition à ce que Dieu veut, ne dis pas que tu es la lumière de ce monde. Et ne dis pas que tu as cette lumière en Christ, parce que tout simplement tu es dans une situation où ton cœur, ta vie n'est pas telle que Dieu le souhaiterait. Tu penses que tu es la lumière, mais Dieu te dit en fait tu es dans les ténèbres. Pourquoi tu es dans les ténèbres? Parce que justement, tu gardes des choses dans ton cœur. Et Dieu te dit, si tu veux vraiment venir dans la lumière, alors tu as besoin de libérer complètement ton cœur de la haine, de la médisance, de la rancœur. Oh, des fois, ça se transmet simplement par des petites paroles, par des petites choses. Tu vas dire ta pensée, tu vas exprimer ce que tu penses, parce que tu crois que c'est juste. Et finalement, tu alimentes une certaine forme d'aigreur ou d'amertume. Et Dieu finalement te dit, mais si tu dis que tu es là dans cette situation de vivre pleinement ma grâce, mon amour, ma fidélité, si tu dis que tu es la lumière, et qu'en fait tu as ces choses dans ton cœur, la réalité c'est que tu vis dans les ténèbres. Nous avons peut-être besoin ce matin de nous examiner nous-mêmes, afin de réaliser ce que nous vivons, parce que Dieu nous aime, et l'amour de Dieu est là, et Dieu ne veut pas que nous soyons dans les ténèbres. Dieu ne veut pas que nous soyons dans des situations et des moments qui sont difficiles, parce qu'il sait que ces ténèbres vont non simplement perturber notre cœur, mais ces ténèbres vont nous conduire à la mort. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament, par exemple, que Jean-Baptiste avait rendu un excellent témoignage. Vous savez ce qu'il est dit de lui? La Bible nous dit que Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Moi, j'aimerais que Dieu dise cela de moi. J'aimerais que Jésus dise cela de moi. Cette lampe qui brûle, cette lampe qui luit, cette lampe qui brille, cette lampe qui éclaire, cette lampe qui va faire de moi véritablement cet homme ou cette femme qui va pouvoir communiquer aux autres ce que nous avons reçu. Nous sommes appelés, comme Jean-Baptiste, à être des lumières qui brillent. Philippiens chapitre 2, verset 14 nous dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Ah, les murmures, c'est difficile. Ou plutôt, je dirais, les murmures, c'est facile. Combien ça part vite, des murmures. Avec quelle facilité, quelle aisance on murmure. Mais ces choses sont normales. Pourquoi? Tout simplement parce que la Bible nous dit qu'il y a une opposition en nous. La Bible nous dit que notre chair est en opposition avec la vie de l'esprit et qu'il y a un combat continuel, permanent,
Et c'est la raison pour laquelle il ne nous est pas facile de marcher selon l'esprit. Mais jamais il est dit que c'est impossible de le faire. Il est dit que c'est vrai que c'est un combat, c'est une lutte. Par contre, il est dit que c'est très facile de laisser la chair reprendre le dessus et de se laisser aller à la médisance, au murmure, à bien des paroles, des attitudes, des actions, etc. Ça, c'est facile. Parce que depuis que le péché est entré dans le monde, c'est notre nature. Nous avons une nature de pécheur, de pécheresse. Et c'est notre nature que de faire tout ce qui est opposé à la parole de Dieu. Pour nous, c'est devenu naturel. Donc marcher selon la vie de l'esprit, c'est pas naturel. Donc il faut que ça le devienne. Et vous savez, c'est un exercice. C'est comme je prends les champions de vélo, là on a des champions là qui font du vélo. Moi j'aime bien les voir transpirer. Ils m'ont demandé des fois de venir avec eux, j'ai dit oui, mais je suis en train de me préparer mentalement là, vous voyez, parce que quand je les vois transpirer comme ça, je me dis ils vont me mettre 50 km dans la vue, ils vont me laisser sur le bas-côté. Mais si on veut que dans un sport, quel qu'il soit, être un peu performant, qu'est-ce qu'il faut faire? Fumer, boire, quelques piqûres? Mais non, généralement, il va falloir s'entraîner, avoir un bon équilibre, on revient, d'équilibre au niveau de la nourriture, etc. Et il va falloir s'entraîner pour que nous puissions, eh bien, nous former, nous... Dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Si vous voulez bien marcher selon l'esprit, il faut vous former à cela. Et la formation, elle est simple, c'est l'école de Dieu. Et l'école de Dieu nous forme, nous instruit. Dieu nous parle. Et Dieu va commencer à travailler nos cœurs, nos vies. Et par nos épreuves, nos combats, nos luttes, c'est une sacrée école, c'est vrai. Mais nous apprenons par conséquent à marcher selon Dieu. Et nous arrivons à vrai, petit à petit, à tout faire, sans murmure, sans hésitation. Nous laissons de côté ce qui est négatif, nous regardons toujours ce qui est positif, par la foi en Christ. Et il est dit ici, afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu, c'est vrai, d'une génération perverse, corrompue. Mais vous, vous allez briller comme des flambeaux dans ce monde, portant la parole de vie. Alléluia. J'aimerais pour terminer ces moments simplement te dire comment est ton flambeau ce matin. Comment il est ton flambeau? Comment est-ce que tu brilles aujourd'hui? De quelle manière brilles-tu? Je vais demander aux musiciens de s'approcher pendant quelques instants. Est-ce que ton flambeau est en bon état? Est-ce que ta lumière, elle éclaire déjà ta vie? Ton cœur, ton œil, est-ce que tu as une bonne vision, une bonne compréhension, un bon discernement? Je parlais du tabernacle tout à l'heure en introduction et je vais conclure avec cela également. Vous savez ce qu'il est dit concernant la lumière que Dieu a voulu placer dans le tabernacle afin que lorsque le souverain sacrificateur entrait dans ce lieu, eh bien, puisse y voir clair. La Bible nous dit, tu ordonneras de t'apporter de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Voilà une belle image du renouvellement. Jour et nuit, la lumière dans le tabernacle devait briller. La présence de Dieu devait être là. Il n'y a pas un moment où cette présence devait quitter la vie de ceux et celles qui étaient là, rapprochés autour de lui. De ceux qui s'approchaient de cette tente du tabernacle, la présence de Dieu devait être là. Je crois que pour nous aujourd'hui, c'est la même chose encore. Nous avons besoin d'être renouvelés, afin que l'huile coule et coule abondamment dans notre vie. L'Ecclésiaste va dire ceci, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, soient purs, soient vrais, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. On pourrait ce matin, simplement pendant quelques instants, fermer nos yeux par exemple et s'approcher de Dieu, et réfléchir sur nous-mêmes, sur notre vie. Et est-ce qu'on pourrait dire, en réfléchissant sur notre attitude, sur notre cœur, sur notre vie, est-ce qu'il y a toujours de l'huile pure sur mon cœur ce matin? Est-ce qu'il y a toujours cette huile pure qui est renouvelée chaque jour? Est-ce qu'il y a cette huile qui descend sur ma vie et qui finalement va faire en sorte que la lumière de Dieu va briller en moi? Est-ce que cette huile est là, ce matin? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce que cette lumière est toujours aussi digne que celui qui l'a rendue digne le premier jour où il te l'a donnée? Ou est-ce que, comme le dira l'Ecclésiaste encore quelques versets plus loin, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur? Si tu as de l'huile, tu verras les mouches qui viendront dessus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera terrible. Parce que les mouches vont commencer à aller sur l'huile. Elles vont commencer à polluer l'huile. Et l'huile va commencer à changer d'odeur et de couleur. Elle va devenir rance. Elle sera infectée, impure. Et peut-être que ces mouches, c'est l'image du péché. C'est l'image de ces choses qui sont désagréables à Dieu. C'est ton attitude avec ta femme. C'est tes reproches, tes discours injurieux. C'est les fois où peut-être tu as même levé la main. C'est ton attitude envers ton mari, ton attitude infidèle dans ton cœur ou dans ta vie ou dans ton esprit. Ça peut être aussi tes mensonges, tes blasphèmes. C'est aussi tout simplement le fait de ne pas marcher selon ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est comme des mouches qui sont là sur ta vie parce que Dieu a déversé sur toi une onction, une présence de Dieu particulière. Mais tu n'as pas eu le courage, tu n'as pas eu cette détermination, tu n'as pas eu cette persévérance pour aller jusqu'au bout et finalement faire ce que Dieu te demandait de faire. Et aujourd'hui, quand tu réfléchis à cela, tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment cette lumière du monde? Est-ce que je suis vraiment cette lumière qui va éclairer les autres? Est-ce que je m'éclaire déjà moi-même? Comment est le vase de cette huile qui est sur ta vie? Comment est-il? Comment est-il? La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 12 qu'il n'éteindra pas le lumignon qui fume. J'aimerais te dire que ce matin, peut-être, tu considères que ta vie est un lumignon qui est en train de s'éteindre petit à petit. Tu es là, tu viens, mais ta vie n'est pas telle que le Seigneur la voudrait. Bon, c'est vrai, il y a les souffrances du passé. Il y a les souffrances de ta famille, il y a ton éducation, il y a tout ce que tu n'as pas compris, que tu as vécu et que plutôt tu as même subi, avec beaucoup d'incompréhension. Et quand tu t'approches de Dieu aujourd'hui, parfois même tu te dégoûtes parce que tu te dis, mais ce que j'ai vécu dans le passé, aujourd'hui, je suis en train de le reproduire. Je le reproduis dans ma vie, je le reproduis avec ma femme, avec mon mari, je le reproduis avec mes enfants. Et tu es affecté. J'aimerais te dire que ce matin, le Seigneur a une volonté pour toi. C'est de te renouveler. Et de faire en sorte que cette huile, elle vienne te vivifier. Que l'huile infectée par les mouches, le péché, la médisance, le mensonge, la violence, la méchanceté, l'adultère, l'impolitesse, que toutes ces choses puissent maintenant quitter ta vie, que cette huile puisse sortir complètement. Et que simplement, tu permettes à Dieu de dire, je suis qu'un vase. Je suis un vase d'or pur, maintenant. Parce que tu vas faire déverser ton huile en moi. Et ce ne sera plus par moi que je vais agir et marcher. Mais c'est toi qui vas purifier ma vie. Qui va me renouveler. Et qui va m'amener dans une vie nouvelle. David dira, ou plutôt Dieu dira de David, j'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oint de mon huile sainte. J'aimerais te dire que ce matin, peut-être toi, tu es appelé aussi à un service particulier pour Dieu. Et Dieu t'appelle à t'engager, à te consacrer, à marcher pour lui. Dieu t'appelle à le servir pleinement. Peut-être c'est parmi les adultes, peut-être c'est parmi le chant, peut-être c'est parmi la prédication, peut-être c'est parmi les enfants, les ados ou autres. Et Dieu t'appelle à une œuvre particulière. Il a alors besoin maintenant de déverser sur ta vie cette onction particulière, cette huile sainte, Tu as besoin que ton cœur soit libéré, débarrassé, afin que tu ne sois plus un lumignon qui fume, mais que tu sois tout simplement cette huile pure, fraîche, cette huile qui va communiquer cette lumière, qui va brûler, tu vas briller. Tu seras la lumière de ce monde parce que Jésus habitera pleinement en toi. J'aimerais que pendant ces moments, avant de terminer, nous puissions réfléchir à tout cela, considérer notre vie et réaliser que Dieu veut accomplir cela ce matin.